Il a pris une chance parce qu'il n'est jamais vraiment venu à l'Église. Ça fait des années qu'on lui parle de l'Évangile. Mais il ne connaît pas vraiment, dans le sens qu'il ne connaît pas ce que je crois, ce que j'enseigne et tout ça, plus qu'il faut. Quoi, je lui présenter l'Évangile, mais ils ne savent pas comment on fait les choses ici. Alors, il a pris une chance, il est venu me voir, puis il a dit, « Normand, aimerais-tu faire le service? » J'étais touché de ça, vraiment. Il dit, « Moi, je trouvais une belle occasion de pouvoir présenter l'Évangile en même temps. » Et puis, j'étais touché parce que mon beau-frère, je l'aimais beaucoup, c'était un des bons amis aussi. On avait beaucoup de plaisir en famille, ensemble, lorsqu'il venait à la maison. Et puis, ils ont pris une chance. Alors, il a dit, écoute, le curé est ici, là. Et puis, il a voulu faire un petit test. Il m'a demandé, est-ce que tu bénis le corps? Alors, j'ai dit, est-ce que je bénis le corps? J'ai dit, honnêtement, je savais pas ce que ça voulait dire. Fait que j'ai dit... Ben, je dis, je prie pas pour les morts, on prie pas pour les morts chez nous, à notre église, tout ça. Fait que là, il a pris un guess, il a dit, ok, c'est correct, je vais envoyer le curé, t'sais. Fait que, vas-y. Bon, Dieu merci, moi, ça m'a permis d'apporter la parole et j'ai pu présenter l'Évangile, ma famille était là et tout ça. J'ai pu présenter l'Évangile à tous ceux qui étaient là parce que tout le monde dans la famille de mon beau-frère, il n'y a aucune personne vraiment qui se dit né de nouveau et tout ça. Ils sont très attachés à la tradition religieuse, mais ils ne connaissent pas vraiment l'Évangile. Tu parles de la Bible et tout ça. Ils sont vraiment pas. Connaissent pas ça. Là, il est arrivé quelque chose qui est assez spécial après. On l'a entendu à travers les branches qu'ils étaient déçus du service. Ils étaient déçus de ce que j'avais fait. Et ce que j'ai entendu à travers les branches, c'est que c'était pas un vrai service funéraire. Eh mon Dieu, et ça c'est dur pour ça c'était. T'es pas content chez nous. Hein. Ma femme était vraiment en colère, t'as vraiment pas de bonne humeur et tout ça. Moi non plus, mes enfants non plus, tout ça. J'ai dit, on n'a pas fait un vrai service. Et imaginez donc qu'ils ont fait un service catholique et puis ils ont fait ils sont allés à Toronto puis ils ont fait un deuxième service funéraire. Mon beau-frère a eu deux services funéraires. Parce que le mien, c'était pas le vrai. Celui que j'avais présidé, celui que j'avais animé, c'était pas le vrai service. C'était pas vrai. Vous pouvez dire que j'étais triste aussi en même temps parce que ça n'a pas été facile. C'était un très bon ami, mon beau-frère. On avait beaucoup d'affection. Mais moi, je savais que... Pour eux, ça disait pas grand-chose, mais moi, je savais que quelques temps après, juste avant de décéder, quelques temps après, on était allé le visiter à sa maison, puis il avait accepté le Seigneur. Puis vraiment né de nouveau, et puis il a bien compris, et une belle confession devant moi, tout ça, avec larmes. Alors, j'avais une tranquillité, mais j'étais triste aussi de la conclusion de tout ça. Et c'est une des choses qu'on nous demande très souvent, et sûrement on voulait demander... Lorsque vous êtes peut-être venu au Seigneur et sûrement quelqu'un dans votre famille tout ça vous a demandé pourquoi vous autres ne faites pas ça? Pourquoi vous autres, vous ne faites pas ça? Moi, je me fais demander ça régulièrement dans la famille, ou soit dans les cousins, les tantes, tout ça. Pourquoi vous autres, vous ne faites pas ça? Pourquoi vous autres, vous ne faites pas baptiser les bébés? Moi, ma belle-mère était enragée, insultée parce qu'on n'avait pas fait baptiser nos enfants lorsqu'ils étaient bébés. Ah non, mais là, tu sais, c'est la faute du gendre. Et ça, c'était moins ça. Dans quelle affaire elle a embarqué ma fille, puis là, elle était vraiment en colère, elle m'aimait pas tellement. Puis là, tes enfants sont perdus, ils vont aller dans les limbes, tu n'as aucune espèce d'idée s'ils meurent, sont faits, et tout ça. Pourquoi vous autres, vous ne faites pas ça? Nous autres, on fait ça. Pourquoi vous autres, vous ne faites pas ça? Je me rappelle quand j'étais allé en Israël en voyage, il y avait 22... comment je te dirais bien ça? On était tous les gens dans le ministère et dans l'œuvre. Il y avait trois curés de Duvernay à Laval. J'avais même le curé de ma belle-mère, imaginez, qui était en voyage avec nous autres. Et puis, on était 18 pasteurs, puis on est allés en voyage en Israël. C'était le gouvernement israélien qui payait les pasteurs et tout ça pour aller faire un voyage là-bas, pour encourager les gens, le tourisme et tout ça. Finalement, on s'en va là-bas, puis pas la guide, mais l'agence de voyage, la représentante de l'agence de voyage avait un livre dans sa sacoche, puis moi j'étais en arrière, puis je dis, regarde, je me souviens pas de son nom, mais je dis, hey, t'as un livre, comment adorer Marie. J'ai dit, mon Dieu, hey, regarde, tu veux apprendre comment adorer Marie, puis on a pu évidemment parler de l'Évangile et tout ça. Elle a dit, nous autres, on adore pas vraiment Marie, nous autres, puis tout ça. Fait qu'elle me dit, j'ai dit, ben oui, mais c'est écrit comment adorer Marie, il me semble. J'ai dit, t'adores Marie, puis je te demande juste si t'adores Marie. Elle nous dit, on adore pas Marie, puis vous autres, vous adorez Marie, tout ça. Puis elle, elle dit, ben là, t'es un peu, là. Fait que là, on est embarqué dans un autobus, c'était un guide touristique qui avait un autobus, puis on était toute la gang. Puis c'était vraiment drôle parce qu'elle se promenait d'un banc puis de l'autre. Elle venait s'asseoir à côté de moi, m'expliquer c'était quoi adorer Marie, puis elle allait voir le curé, puis elle s'assoyait avec, puis elle dit, oui, mais nous autres, elle dit, c'est ça. Puis là, c'était rendu, vous autres, pourquoi vous autres, vous faites pas ça? Puis nous autres, on fait ça, puis tu sais, mon doux, hein. Pourquoi vous faites pas ça? Vous savez, les chefs religieux dans le temps de Jésus sont allés voir Jésus-Christ et ont posé exactement la même question. Pourquoi vous autres, vous faites pas ça? Eux autres, dans le fond, la question était agressive. C'est une question virulente. Dans le fond, ils voulaient attaquer Jésus pour essayer de le piéger, pour essayer de le mettre dans le coin, pour lui démontrer, regarde, t'es pas vraiment saint, t'es pas dans la vérité, toi, Jésus-Christ. Et un jour, c'est ça qui est arrivé, justement, les pharisiens, et pas n'importe quel pharisien. Vous savez, il y a à peu près 6000 pharisiens dans le temps. Mais les plus conservateurs, les plus rigides, c'était ceux qui venaient de Jérusalem. Alors ça, c'était les vrais, là. C'était la gomme. Et un jour, des pharisiens de Jérusalem vont voir Jésus avec une question. Justement, une question piège. Parce que les disciples ne suivaient pas la tradition. Jésus-Christ, honnêtement, a tassé la religion et a tassé les traditions et enseignait vraiment ce qui se trouvait uniquement dans les Écritures saintes. Et on va voir cette rencontre-là dans Matthieu chapitre 15. Et j'aimerais vraiment vous inviter à tourner dans Matthieu 15 et on va voir ce qui se passe dans ce passage-là. On va juste lire les deux premiers versets et on va suivre tranquillement, je vais commenter les versets, puis on va avancer à travers le passage, d'accord? Matthieu chapitre 15, verset 1 et verset 2. Matthieu 15, c'est le premier livre du Nouveau Testament, alors c'est relativement simple à trouver. Si jamais vous n'êtes pas habitué, ça arrive, c'est normal. Au début, on est moins habitué, il y a justement notre frère Jean-Claude qui se promène avec la Bible. Nathalie, est-ce que vous avez une Bible? Tiens, si vous n'avez pas de Bible, gênez-vous pas, on en a. D'accord? Verset 1 et verset 2. Alors, des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? » Vous comprenez vraiment bien là, que quand on dit « Pourquoi tes disciples font pas ça? » Où ils font ça, dans le fond, l'accusation s'adresse à Jésus-Christ. C'est les disciples de Jésus-Christ, d'accord? On se comprend, là. Alors, les pharisiens et les scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. » D'accord? La question revient toujours, c'est toujours la même question. « Pourquoi ceux qui suivent Jésus ne suivent pas la tradition? » Une bonne question. Pourquoi on ne fait pas certaines choses et pourquoi on fait certaines choses? Et les pharisiens sont là de Jérusalem et ils accusent les disciples et par ricochet, évidemment, ils accusent Jésus-Christ de ne pas suivre la tradition et même de violer, de transgresser la tradition des pères. Là, on se comprend. L'exemple ici, c'est le lavage des mains et on se comprend, les amis, on n'est pas question ici d'aller prendre du savon et se laver les mains avant de manger, là. Ça, c'est pas de ça que ça parle. On parle du rituel de la purification des mains. C'était religieux, c'est une tradition religieuse, le rituel, le lavage, la purification des mains, parce que on avait cette notion de souillure. C'est pas juste d'avoir les mains sales avant de manger, ça c'est une bonne chose, laver les mains avant de manger, évidemment. Bon, mais ici, c'est un symbole religieux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? La tradition des pères. Vous violez la tradition des pères. Ça veut dire quoi, ça? Qu'est-ce que la tradition des pères? Est-ce que leur question, c'est pourquoi vous, les chrétiens, alors ceux qui suivent Jésus-Christ, pourquoi vous autres, vous ne suivez pas la Bible? Alors, est-ce qu'on parle ici de suivre les enseignements de la Bible? C'est quoi, ça, la tradition des pères? Bien, laissez-moi vous expliquer de quoi il s'agit. On ne peut pas vraiment comprendre le message de Jésus sans d'abord expliquer c'est de quoi qu'on parle dans, quand on parle de la tradition des pères. Laissez-moi commencer en disant simplement qu'il ne s'agit pas de la Bible ici. Il ne s'agit pas de la parole de Dieu. Il s'agit de la tradition que les Juifs avaient développée, tous les règlements qu'ils avaient adoptés au fil des années, je dirais même au fil des siècles. La tradition des pères, c'est cette tradition qui a été transmise de génération en génération. Et vous savez, c'est toujours un problème lorsqu'une religion va prendre la Bible plus des choses. Va prendre la Bible plus la tradition. Va ajouter des règlements d'hommes à la Bible. Parce qu'avec le temps, ce qui va se passer, c'est que tu vas considérer les traditions comme étant aussi importantes que les Écritures. Puis à un moment donné, tu ne sais même plus comment faire la différence. Et je peux vous dire qu'il y a des gens autour de nous qui vont à des religions, puis c'est exactement ce qui se passe. Ils ne savent pas, ils ne connaissent pas la Bible. Ils connaissent parfois même plus la tradition que la Bible. Et c'est le cas avec le judaïsme. Et c'est le cas dans le temps, c'est le cas encore aujourd'hui avec plusieurs religions. Ces traditions prennent tellement de place qu'on ne sait plus faire la différence. Alors, dans le cas des pharisiens, quelle tradition s'agit-il? Vous comprenez que dans l'Ancien Testament, les Juifs, à un moment donné, péchaient, puis ils s'étaient éloignés de Dieu à un point tel que Dieu les a punis. Dieu voulait qu'ils reviennent à lui, et Dieu a envoyé des prophètes après prophètes, jour après jour, des messagers, des gens pour les reprendre et les ramener, les inviter, les inciter, les exhorter à revenir à s'approcher de Dieu. Mais ce n'était pas ce qui se passait. Les gens se sont éloignés de Dieu et péchaient, même l'idolâtrie, même ils ont tassé Dieu, ont pris des idoles. Et à un moment donné, Dieu a dû les juger parce qu'il les aimait et voulait les ramener proche de lui et les envoyer hors du pays, carrément en exil à Babylone, où les gens ne pouvaient même plus adorer Dieu à Jérusalem, au temple. Tout a été détruit, rasé, brûlé, et ils ont été pendant plus de 70 ans loin du temple, loin de Jérusalem. Ils n'avaient même pas le droit d'y aller. Ils étaient pris là à Babylone. C'est évident que lorsqu'ils sont revenus, il y a eu une grosse repentance, les gens sont revenus au Seigneur, et une repentance et tout ça. Et on avait peur que les Juifs fassent encore une fois la même chose et s'éloignent de Dieu, et qu'une autre fois, ils soient exilés, chassés du pays d'Israël. Alors, ce qu'on a décidé de faire, on a dit, écoute, c'est évident, les Juifs, les enfants de Dieu, tout ça, les enfants d'Israël, ils se sont éloignés de Dieu, ils ont violé la parole de Dieu. Donc, une façon d'éviter ça, ce qu'on va faire, on va créer comme une sorte de clôture autour de la loi. On va essayer de préciser la loi, on va ajouter d'autres lois pour essayer d'empêcher que les gens violent la parole de Dieu. Donc, on va être plus sévère, on va ajouter comme une sorte de clôture. Et c'est vraiment l'image que les Juifs vont prendre, la clôture autour de la loi. Par exemple, Dieu va dire dans l'Ancien Testament, « Tu ne travailleras pas le jour du sabbat. » Alors, les Juifs, eux autres, ont dit, « Mais c'est quoi travailler? C'est quoi ne pas travailler? C'est quoi travailler? » Alors, ils ont développé un paquet de règlements, une liste de choses que tu avais le droit de faire et de ne pas faire, juste pour que tu puisses ne pas transgresser la parole de Dieu qui était tellement simple. Tu ne travailleras pas le jour du sabbat. Mais les autres l'ont rendu tellement compliqué, c'est au point que, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que j'ai le droit de ne pas faire ça? J'ai le droit de... Un exemple d'ailleurs qu'un rabbin m'avait donné, c'est à peu près comme si tu t'en vas au magasin, normalement tu prends une palette de chocolat. Est-ce que tu travailles lorsque tu ouvres un Coffee Crisp? Alors ça, c'est des exemples. Des rabbins sont arrêtés, se sont penchés là-dessus. Ils ont fait une grosse liste très exhaustive des affaires que tu avais le droit puis que tu n'avais pas le droit de faire. Et ça, c'est ce qu'ils appellent la clôture. Ils avaient tellement de règlements, tellement de lois pour essayer d'expliquer la Bible. Ils en ont mis tellement. Et ça, en passant, ça s'appelle la Mishnah. Parce qu'au deuxième siècle, là, il y a un rabbin qui a dit, écoute, il y en a tellement. Et tout était verbal, hein. On chantait, les spécialistes de la loi passaient leur journée à chanter les lois. Et quand tu avais besoin une question de loi, tu allais voir ce spécialiste de la loi, un peu les avocats du temps, les avocats religieux du temps. Et les gars passaient leur journée à réciter ces lois-là. Donc, tu avais une question légale, tu allais voir ce gars-là, il citait. Au deuxième siècle, ils ont dit, écoute, on est rendu tellement avec des centaines et des centaines de lois, on va mettre ça par écrit, puis ça s'appelle la Mishnah. Maintenant, et qui veut dire répéter. Alors là, ils ont continué, puis ils ont dit, ouais, mais en lisant la Mishnah, c'est pas assez clair. Alors la Mishnah avait pour but d'expliquer la parole de Dieu. Alors ils ont inventé des lois, des explications, des commentaires de la Bible, et ça s'appelle la Mishnah. Là, ils ont dit, mais ça, c'est pas assez clair. Il faudrait écrire d'autres lois pour être plus précis, pour essayer d'expliquer la Mishnah qui essaie d'expliquer la parole de Dieu. Donc, ce qu'on va faire, on va écrire d'autres lois. On va adopter des centaines de lois, puis c'est ça qu'ils ont fait à travers les traditions. On appelle ça la Gemara. Un gars, alors des rabbins à Jérusalem ont décidé de tout mettre ça ensemble. On dit, tiens, on va mettre ça ensemble, la Mishnah et la Gemara, on va mettre ça ensemble. Alors, tu vois un verset de la Mishnah en haut, puis tu vois la Gemara, l'explication tout en bas. Et ça, ensemble, ça s'appelle le Talmud de Jérusalem. À Babylone, ils ont décidé de faire la même chose. Alors, ce qu'ils ont fait, ils ont dit, tiens, on va en prendre un peu plus. Il me semble que la compilation n'était pas assez adéquate. On va en prendre encore plus et plus large. On va être plus complet dans notre affaire. Donc, à Babylone, ils ont sorti leur Talmud, qui est la Mishnah, les Gemara, mais encore tellement complète qu'elle est rendue avec 20 volumes. Ça, c'est 20 livres. Alors, tu peux à peu près... 20, imagine, là, 20 grosses briques, tout écrit en hébreu, tous les règlements, les lois, c'est des détails inimaginables, des centaines et des centaines de lois. Il y a des hommes qui passent leur vie à essayer d'expliquer et comprendre, à étudier tout le Talmud de Babylone, c'est tellement gros. D'ailleurs, c'est celui qui est le plus respecté chez les Juifs, c'est le Talmud de Babylone, d'accord? Alors, vous pouvez vous imaginer, là, et ça couvre de... c'est tellement détaillé, c'est incroyable. Tu lis ça, puis t'as de la misère à comprendre. C'est tellement poussé, bizarre, compliqué, mystérieux. Et les rabbins se chicanent parce qu'ils savent pas ce que ça veut dire, fait qu'ils s'obstinent. Non, c'est ça que ça veut dire, c'est ça que ça veut dire. Fait qu'imagine-toi, là, c'est vraiment pas... Imagine-toi quelqu'un qui veut obéir à Dieu, là. Il y a 20 volumes, puis c'est comme, mon ami, ça n'en finit plus, c'est un gros fardeau. Maintenant, le Talmud est divisé en 6 sections, ou 6 ordres qu'on appelle Sédarim. Chaque traité aborde un thème principal. Alors, ça va parler de toutes sortes de thèmes et tout ça. L'une des sections est sur le lavage et la purification. Tous les rituels sur la purification puis les lavages. On va parler, entre autres, du rituel du lavage des mains. Très compliqué, très complexe. Il y a toute une méthode. Et ça, c'est vraiment la question dont il est question ici, lorsque les pharisiens viennent voir Jésus, le confrontent surtout ses disciples, et conséquemment Jésus-Christ lui-même, de violer la tradition des pères à l'endroit du rituel de purification des mains. D'accord? C'est justement de ça dont il est question ici. Pourquoi, verset 2, tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas? Les chefs religieux croyaient, et on voit ça dans le Talmud, dans toute cette littérature juive, qui n'est pas biblique en passant, c'est des commentaires, c'est des lois. Et voici ce qui se passe, c'est qu'avec la génération, chaque génération qui passe, donne plus d'autorité aux traditions des pères, vous voyez. Donc, telle génération, les rabbins adoptent des nouvelles lois, la tradition suivante va dire, ah, ça, c'était la Bible, ça. Ça, c'est la parole de Dieu, ça. Ça, ça a autant d'autorité que la Bible. D'accord? Et ça continue comme ça, si bien qu'à un moment donné, tout a la même autorité, et c'est tout dans leur perspective. Certains même vont dire que ça a plus d'autorité que la parole de Dieu. Alors, les chefs religieux, dans le temps, croyaient que tu devais passer à travers un rituel de lavage des mains, et pour deux raisons. Premièrement, si tu avais eu des contacts dans la journée avec des non-juifs, voyez-vous, si tu avais des contacts avec des païens, des non-juifs dans la journée, soit par ton affaire ou ton travail et tout ça, tu avais des contacts avec des non-juifs, tu étais rituellement impur, tu étais souillé, tu as eu des contacts. Donc, une façon de désintoxiquer les effets du contact avec des non-juifs était de passer par la cérémonie du lavage des mains. Ça te libérait, donc la cérémonie du lavage des mains te libérait des effets insidieux des mauvais contacts que tu avais au cours de la journée. Il y avait une deuxième raison pour laquelle il y avait ce rituel du lavage des mains, c'est que les rabbins croyaient qu'il y avait un démon qui s'appelait Shibta et qui se plaçait sur tes mains quand tu dormais. Il était sur tes mains, là. Alors, tu dors, tu as un démon qui s'appelle Shibta sur tes mains. Alors, si le matin tu te lèves et tu t'en vas manger sans passer par le rituel du lavage des mains, alors le démon glissait sur ta nourriture et rentrait dans ta bouche et dans ton corps et tu devenais possédé d'un démon, du démon de Shibta. OK? C'est ça qu'on croyait dans le temps. Alors, c'est la raison pour laquelle c'était très important de suivre le rituel du lavage des mains, justement pour te protéger contre le démon de Chipta. Le lavage des mains était si important que le rabbin Ta'anit a dit « Quiconque demeure en Israël et mange sa nourriture avec les mains lavées peut avoir l'assurance qu'il obtiendra la vie éternelle. » Certains rabbins croyaient donc que tu pouvais avoir la vie éternelle en passant par le rituel de lavage des mains. Alfred Eidesheim, d'ailleurs, qui s'est spécialisé à l'époque de l'Antiquité du Nouveau Testament, dit ceci, qu'il y avait toujours des vases. On a retrouvé ça, les archéologues. Il y avait des vases partout dans les maisons, toujours prêtes, que tu pouvais te servir pour passer à travers ce rituel de lavage des mains, dans tous les foyers. Ça, c'était... Alors, il y avait toutes sortes de lois aussi sur la quantité, comment tu allais le faire. Et là, sa quantité, les autres, ils mesurent ça en œuf. Un demi-œuf et demi. Alors, tu casses un œuf à moitié, là, tu prends de l'eau là, puis ça te prend comme le trois quarts. Dans le fond, on dirait le trois quarts, mais c'est à peu près ça. Il y avait toute une méthode, ça te prenait une quantité minimum pour que purification ait lieu. Tu mettais tes mains, excusez comme ça, les doigts vers le ciel. Et là, tu commençais par le coude, tu faisais descendre ça. Après ça, tu avais une deuxième, coulement d'eau, tu faisais couler l'eau avec les doigts vers le bas, après ça sur une main, puis tu essuies, après ça l'autre main, etc. Et là, c'était officiel, ça c'était vrai, là. Là, tu venais vraiment de passer à travers le rituel, la purification des mains, et ça comptait, c'était pur, les mains étaient pures. D'ailleurs, on raconte l'histoire d'un rabbin, juste pour vous montrer l'importance que cette tradition occupait dans l'esprit des chefs religieux dans le temps. On raconte l'histoire du rabbin Akaba, qui a été mis en prison et sa ration d'eau a été réduite à un point tel que tout ce qu'il avait, c'était qu'il pouvait prendre un petit verre d'eau dans la journée. D'accord? Lui a décidé. Il a pris ce qu'il restait comme ration. Il l'a pris pour se laver les mains avant de manger plutôt que de le boire. 10 ans, voici ce qu'il disait, qu'il préférait mourir que de transgresser la tradition des pères. Voyez-vous comment est-ce qu'on pensait dans le temps, là? Un autre rabbin a déclaré qu'il était préférable d'aller chercher de l'eau plus de six kilomètres que de se rendre coupable en négligeant de se laver les mains avant de manger. T'as faim? Bien, avant d'aller manger, là, t'as pas d'eau pour te faire la purification des mains, bien, fais 6 kilomètres, aller, 6 kilomètres, revenir, donc 12 kilomètres pour au moins te faire la purification des mains avant de manger. Alors, les pharisiens accusent les disciples de Jésus et ils accusent Jésus de violer la tradition des pères. Alors, les pharisiens accusent Jésus de violer la tradition des pères et l'exemple qu'ils vont donner, c'est le lavage des mains. D'accord? Vous suivez? C'est clair? Alors, regardez bien la réponse de Jésus. Jésus répond au verset 3 et voici ce qu'il leur dit. Jésus leur répondit, « Et vous? » Nous autres, on dirait probablement, mais, on se défendrait. Mais, Jésus dit, il ne se défend pas du tout, il dit, et vous? En d'autres mots, il accepte cette critique. Il accepte la critique. Nous, on fait ça. On viole la tradition des pères. Mais vous autres, maintenant, voici ce que vous allez faire, ce que vous faites. Verset 3. Et il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Nous, ce qu'on viole, c'est la tradition des pères. Vous autres, vous transgressez le commandement de Dieu. Pour Jésus, ce qui compte, c'est la parole de Dieu et non la tradition. Amen. Ça, c'est une chose qu'on réalise quand on vient au Seigneur Jésus-Christ puis on ouvre les Écritures. Mon Dieu, il y a tellement d'affaires que des gens font par tradition qui ne sont pas du tout dans les Écritures saintes. Seule la parole de Dieu compte. Maintenant, regardez bien le twist dans l'affaire. Vraiment intéressant. Eux accusent, les pharisiens, les chefs religieux accusent Jésus de violer la tradition et les pharisiens lui donnent une illustration de lavage des mains. Jésus va faire la même affaire. Moi, te donner une illustration comment tu violes le commandement de Dieu. C'est la façon que tu traites tes parents. C'est ça que Jésus va faire, verset 4. vous violez la parole de Dieu. Car Dieu a dit, verset 4, « Honore ton père et ta mère. » Il va citer en réalité deux passages dans l'Exode. « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Mais vous, vous dites, « Celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. » Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Jésus cite Exode 22, commandement, honore ton père et ta mère, prends soin d'eux. On voit vraiment l'affection de Dieu à l'endroit des parents, de prendre soin de tes parents. Bon, il n'y avait pas de bien-être social, il n'y avait pas tout le système, le gouvernement, les retraites comme aujourd'hui, tout ça, et très souvent, les parents se retrouvaient, ils s'étaient investis toute leur vie à prendre soin de leurs enfants, et lorsqu'ils étaient plus vieux, souvent, plus souvent qu'autrement, ils se retrouvaient dans la rue avec aucune aide, rien. Et c'était tellement important que les enfants prennent à ce moment-là responsabilité des parents. Et Dieu veille dans le commandement, c'est inscrit dans le commandement. Ça montre le cœur de Dieu de prendre soin des parents. En d'autres mots, vous avez une responsabilité maintenant envers vos parents. Ils ont pris soin de vous autres, une bonne partie de votre vie. En retour maintenant, vous avez cette responsabilité de prendre soin d'eux. Et non seulement ça, il va citer un autre verset, Exode 21, 17. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Et là, il y avait même une peine capitale si tu ne respectais pas et honorais pas tes parents. C'était très sérieux. D'ailleurs, Flavius Joseph, un grand historien du temps de Jésus-Christ, va même mettre ce commandement-là d'honorer ses parents au deuxième rang après le premier commandement. Aime Dieu de tout ton cœur et tout ça, toutes tes pensées. Puis tout de suite, le deuxième, honore tes parents. Tellement ce que c'était dans la conception, dans l'esprit des gens à l'époque de Jésus-Christ, c'est tellement essentiel de prendre soin de ses parents. Mais verset 5 dit, « Mais vous, vous dites, celui qui dit à son père ou sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister, c'est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père et sa mère. » Voici ce que les pharisiens faisaient. Tes parents vieillissent, et ça donne qu'ils n'ont plus rien à vivre, ils sont dans la rue. Maintenant, tu serais responsable de rencontrer leurs besoins. Mais voilà, les pharisiens avaient développé une tradition qui s'appelait Corban. Et voici c'était quoi. Ton père, bien, Corban, c'était que tu pouvais décider de léguer un morceau de ton patrimoine, de tes richesses, de tes biens. Tu pouvais le consacrer un peu comme un testament et tu pouvais dire, d'accord, ça, je le donne au temple. En d'autres mots, je vais léguer une partie de mes biens au temple quand je vais mourir, quand je vais être mort. OK? L'affaire, c'est que tu avais le droit de t'en servir de ton vivant. Mais c'était comme si c'était réservé pour le temple à la fin de ta vie quand tu mourrais. Eux autres se sont servis de ça, puis ils ont comme manipulé, ils ont été très ratoureux. Et là, un parent vient le voir, puis il dit, écoute, je suis vraiment mal pris, tout ça. J'aurais vraiment besoin de ta voiture. Peux-tu me passer ta voiture pour aller à l'hôpital, ramener maman? Maman est très malade. Dit, oh, non, Corban, ma voiture est Corban. Non, je l'ai légué dans mon testament, je l'ai donné au temple, tout. Corban, personne n'a le droit de s'en servir, sauf nous autres. C'est Corban. Est-ce qu'on a besoin un peu d'argent? Est-ce qu'il y aurait la nourriture? Oh, non, mon compte de banque est Corban. Corban, consacré à l'Éternel, consacré au temple. Je ne peux pas m'en servir. Moi, je peux m'en servir, mais personne d'autre peut s'en sortir. C'est Corban. Et ils avaient poussé ça très, très loin. Corban. Mais tu pouvais décorbaniser quand tu voulais. Maman vient de voir, elle a des besoins très sérieux, elle souffre et tout ça. Mon compte de banque est Corban. Je peux pas, maman. Maman s'en va. Ah, je vais décorbaniser mon compte de banque et puis on va continuer. On s'en va au restaurant, chérie. Viens-t'en, on va aller au McDonald's ce soir, puis ça, on a des bons spéciales, trio Big Mac. Viens-t'en, chérie, on va y aller. Alors, il corbanisait et décorbanisait comme ça constamment pour fuir leur responsabilité envers leurs parents. C'est quoi le problème? Voyez-vous, c'est quoi le problème? Il est où le problème? Tu peux avoir les mains bien propres, mais le cœur est souillé. Hein? Vois-tu où est-ce que les problèmes? C'est ça que le Seigneur va vouloir. C'est ça le message qu'il va vouloir passer ici, le Seigneur. Tu peux être très propre. Tu peux avoir les mains propres, les mains pures, c'est très beau. Mais bon sang qu'en dedans, c'est tortueux. Hein? Et c'est cette tristesse, cette colère que l'on perçoit à travers les paroles de Jésus-Christ à leur endroit. On sent comment Jésus voit au-delà de ce qui est superficiel, ce qui se voit, toute cette religion superficielle, ces rituels, ces traditions des pères. C'est tellement hypocrite. Et Jésus le sait, parce que vous vous cachez derrière toutes ces belles traditions. Mais dans le fond, là, votre cœur est souillé. Le message ici, c'est qu'on peut avoir des mains très propres, mais le vrai problème, la racine du problème, c'est notre cœur. C'est là qu'il se trouve le bobo. C'est ça qui a besoin d'être purifié. C'est ça qui a besoin de passer par un rituel de purification. C'est ton cœur. Et c'était rendu ridicule, là. L'usage du corban, c'était rendu épouvantable. C'est, par exemple, si quelqu'un te devait de l'argent, tu pouvais aller le rencontrer puis lui regarder en pleine face puis dire « Ton compte de banque est corban. » Moi, je pouvais décider ça, là. J'aimerais bien, d'ailleurs, les gens qui ont de l'argent et tout ça, j'aimerais bien... Corban à ton compte de banque. Fait que là, tu prends contrôle de son compte de banque, tu prends l'argent que tu veux, puis tu décorbanises le compte, puis tu remets ce qui reste au gars. C'était rendu ridicule, là, les gars. C'était rendu épouvantable, ce qui se passait dans ce temps-là. Puis Jésus voit tout ça, là, tu sais. Dans le fond, c'est des excuses pour fuir la parole de Dieu, pour obéir à la parole de Dieu. Et d'ailleurs, c'est ça que Jésus est en train de leur dire. Il dit, c'est pas tradition. Vous êtes en train de littéralement violer le cœur même de la parole de Dieu. Violer le commandement de Dieu qui avait pour but de prendre soin et d'honorer vos parents. Et moi, ce qui m'a vraiment inspiré dans cette histoire-là, ce qui m'a vraiment touché, d'ailleurs, ça m'a frappé vraiment juste ce matin chez nous, j'étais dans le sol, puis je revisais toutes ces choses-là, je priais, puis tout ça. Et à un moment donné, ça m'a frappé de voir comment Jésus savait combien il y avait de parents à Jérusalem qui souffraient. Ça m'a frappé de voir dans l'omniscience de Jésus-Christ, lorsqu'il parle aux pharisiens, il sait que les parents des pharisiens sont en train de souffrir. Il sait quand on souffre, il sait quand on abuse, il sait quand on fuit nos responsabilités, quand on ne fait pas vrai, même si on a une belle image et que tout semble correct. Dieu voit mon cœur. Et Jésus se fait très insistant. Il va se retourner de bord, il va parler à la foule, et il va parler aux disciples, et il va répéter le même message. Jésus dévoile leur corruption, et ensuite il dévoile leur caractère au verset 7 à 9. Il va citer pour le faire Ésaïe chapitre 29. Et c'est intéressant parce que Jésus est en train d'appliquer la prophétie d'Ésaïe aux Éphésiens. Alors, regardez bien comment Jésus va formuler ça au verset 7. Il va dire « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur qui? Sur vous autres. Et la prophétie d'Ésaïe était pour vous autres. Oui, c'était pour son temps. Absolument. D'ailleurs, la façon qu'il va développer Ésaïe 29... Verset 2 à 4, Ésaïe, Israël, on voit qu'Israël célèbre plusieurs fêtes. Regardez bien le contexte et vous allez voir comment ça s'applique aux pharisiens. Ésaïe 29, 2 à 4, Israël célèbre plusieurs fêtes, mais Dieu annonce le jugement à venir. Les versets 5 à 8 d'Ésaïe 29, tu as les ennemis d'Israël qui seront punis, mais le point du message est surtout de dénoncer le pays de péché d'Israël. Ensuite, les versets 9 à 10, les Israélites sont rendus aveugles. Versets 11 à 12, le résultat de cet aveuglement, c'est qu'ils sont incapables de lire la parole de Dieu car elle est scellée d'un sceau. Voyez-vous comment tranquillement il y a des parallèles avec les pharisiens, c'est exactement la même attitude que les pharisiens. Et verset 13, Ésaïe 29, un jugement que Jésus va appliquer aux chefs, aux leaders juifs. Versets 14 à 21, dans Ésaïe 29, le reste du chapitre 29 décrit le péché d'Israël et le jugement à venir. Et le chapitre va clôturer versets 22 à 24 avec un rappel du salut après le jugement. En citant Ésaïe, regardez bien ceci là. En citant Ésaïe, Jésus montre qu'il reconnaissait que la réaction des leaders juifs de son temps est une étape supplémentaire à l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe, décrivant le péché de sa génération et qui allait se poursuivre jusqu'à l'accomplissement complet de l'âge messianique. En d'autres mots, Jésus est en train de dire, regarde, il met tout ça dans une ère prophétique. Voici le cœur des leaders juifs de mon pays, de la terre d'Israël, et ça va être comme ça jusqu'à l'arrivée du Messie. Jésus appelle ces chefs religieux hypocrites, ce sont ces personnes qui observent un tas de rituels religieux, mais qui ne conduisent nulle part. Et Jésus voit leur cœur. Alors, voici les pharisiens et les chefs religieux qui ont des mains pures, mais le cœur souillé. Et verset 10 à 20, Matthieu 15, 10 à 20, Jésus explique à la foule et aux disciples que c'est le cœur qui est souillé et qui a besoin d'être purifié et de lavé. Verset 10 et 11, Jésus dira, ayant appelé à lui la foule, il lui dit, « Écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. » En d'autres mots, ça vient du dedans. Et Jésus dira plus loin aux disciples, au verset 18 jusqu'au verset 20, « Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est cela qui rend l'homme impur. Car de son cœur viennent les mauvaises pensées qui le poussent à tuer, commettre l'adultère, vivre dans l'immoralité, voler, prononcer de faux témoignages et de dire du mal des autres. Voilà ce qui rend l'homme impur. Mais manger sans s'être lavé les mains selon la coutume, cela ne rend pas l'homme impur. » Ça vient du cœur, on a un cœur souillé. C'est notre cœur qui a besoin d'être purifié. On a une nature pécheresse. Et voilà le message que le Seigneur veut nous donner. Ce ne sont pas nos mains qui ont besoin d'être lavées. C'est notre cœur. Notre cœur a besoin d'être purifié, lavé, parce qu'il est souillé. Notre cœur a besoin d'être lavé par Christ. Ézéchiel avait fait cette belle prophétie, il avait dit ceci, « Je verserai sur vous l'eau pure qui purifie. Oui, je vous purifierai de toute souillure, de toutes vos idolâtries. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur insensible comme une pierre et je la remplacerai par un cœur réceptif. Je mettrai en vous mon esprit. Je vous rendrai ainsi capable d'obéir à mes lois, d'observer, de pratiquer les règles que je vous ai prescrites. Avec un cœur nouveau que Dieu met en nous lorsque tu viens à Christ. Je verserai sur vous l'eau pure qui vous purifiera. Est-ce que ton cœur a été lavé par l'eau pure de Jésus-Christ? J'espère que oui. As-tu Jésus-Christ comme ton sauveur personnel? As-tu cette assurance que ton cœur a été lavé complètement de toutes ses souillures? Sinon, moi, je t'invite ce matin à dire oui à Jésus-Christ. Tu as besoin de cette eau. Tu as besoin d'un cœur qui va être lavé avec l'eau que seul Jésus-Christ peut répandre sur ton cœur. Et à nous qui sommes des enfants de Dieu, qui avons été lavés par Christ, on a besoin d'examiner et d'éprouver notre cœur. C'est si facile de tomber dans le superficiel et de s'éloigner du Seigneur et de faire ce qu'on fait simplement par tradition et par habitude et de perdre cette passion pour Christ. Si ton cœur s'est éloigné de Dieu, prends donc cette occasion ce matin pour te rapprocher de lui. Est-ce que tu obéis au Seigneur avec passion, avec de tout ton cœur, de toutes tes pensées? Aimes-tu Dieu? Es-tu passionné pour Dieu, pour ce qu'il est en train de faire dans l'Église? Une bonne façon de le savoir, un bon thermomètre, c'est ton cœur quand tu es en train de louer le Seigneur en avant. Quand on chante les cantiques, où est ton cœur? Est-ce que tu chantes avec un cœur passionné, que chacune des paroles, tu les adresses comme une prière et tu les offres à Dieu? C'est ça que le Seigneur recherche, un cœur passionné, tout entier, qui lui appartient, lavé par cette eau pure que Christ répand sur nous. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons tout d'abord te remercier du sacrifice de Jésus-Christ. que ce sacrifice nous permet, à chacun d'entre nous, d'avoir un cœur qui était souillé, être purifié par cette eau que tu répands sur notre cœur. Ô Seigneur, merci de cette purification. Merci de ce que nous avons été lavés et purifiés. Mais en même temps, Seigneur, nous réalisons que c'est si facile pour nous de nous éloigner, de tomber dans la tradition et de faire les choses seulement par habitude. Et peut-être, Seigneur, ce matin, nous avons besoin de nous rapprocher de toi, de confesser nos fautes et dire, Seigneur, je viens à l'Église juste par tradition, ou je viens à l'Église juste parce que mes parents veulent que je vienne, ou je viens à l'Église juste parce que j'ai des amis qui sont à l'Église. Et de perdre, Seigneur, c'est si facile de glisser, de perdre ce que tu recherches, un cœur qui est dédié, un cœur qui est passionné pour Dieu. Nous voulons venir ici, Seigneur, par amour pour toi. Nous voulons te servir et nous impliquer. Nous voulons nous investir dans ce royaume qui est le tien. Non par habitude, Seigneur, mais avec un cœur passionné. On veut retrouver notre premier amour. C'est ce que tu recherches, Seigneur. Et peut-être qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui ne te connaît pas et qui n'a pas cette assurance dans son cœur d'avoir la vie éternelle. Et nous te prions, Seigneur, que tu puisses le toucher ce matin, que tu puisses le sauver et qu'il ouvre son cœur à toi et s'abandonne entre tes mains pour avoir cette eau pure répandue sur son cœur qui vient de Jésus-Christ. Amen.